Caroline Octant lit la première page de « Dans l'existence de cette villa ».
Je débarque dans cette ville des villes qui descend tout à la fois d'Alexandrie, de Babylone et de l'Empire alors qu'on y assiste, en direct, à la faillite la plus importante de tous les temps et que mon père est mort depuis plusieurs semaines. Aucun lien entre ces événements, sinon que tout cela quand même a à voir avec la situation qui est la nôtre aujourd'hui, avec toute cette situation qui est la mienne depuis plusieurs années déjà, c'est-à-dire bien avant que cette crise ne révèle sa véritable ampleur. Situation qui va perdurer, semble-t-il, encore longtemps sans qu'on sache ni pourquoi ni comment, mais dont je sais qu'elle n'est pas étrangère à cette sensation de découragement et de dégoût pour ce qui m'entoure, pour ce que je vis dans l'existence de cette villa, et dont j'entends également parler à la radio ou dans les journaux, et donc à cette décision que j'ai prise de venir ici, même si cela ne doit mener à rien, même si cela ne changera rien. Simplement ici, l'air est différent, et comme la plupart des gens qui y viennent, je n'ai qu'une idée. Oublier le pays d'où je viens, et qui est le mien malgré tout, oublier la situation dans laquelle nous nous enfonçons, et qui est la nôtre malgré nous. Oublier même ce qui va advenir de nous, où que l'on se trouve. Car s'il est dit qu'ici la situation n'est pas meilleure qu'ailleurs, on est cependant au centre et à l'épicentre de tout, certes du monde, mais du reste également, de l'artifice, de la démesure, de l'espace, de l'excentricité, du gaspillage, de l'indifférence, de la liberté, du mélange, de la mythologie, du mixage, du prodige, de la puissance, de la richesse, de la sidération, de la vanité, du vertige, comme de cette mutation générale qui accourt partout mais aussi et surtout au cœur même de la littérature.
Caroline Octant, le narrateur, arrive dans cette ville, jamais nommée par son nom mais qu'on imagine être New York. Il arrive dans des circonstances bien particulières. À une étape, à un moment de sa vie.
Précisément celle que je viens de lire pour la première page de ce roman qui présente finalement le narrateur en situation face à la crise et à la mort de son père, donc face à la situation de beaucoup de gens dans le monde qui voient la vie de tous les jours, l'actualité, les événements croiser leur vie personnelle. Ou peut-être leur vie personnelle croiser les événements et les situations économiques, sociales, difficiles. Et donc, cela finalement met le personnage, enfin tend le personnage, du verbe tendre, c'est-à-dire met le personnage comme une flèche tendue sur un arc, qui doit aller dans différentes directions, qui doit régler différentes problématiques. Et on peut dire que c'est un départ à deux pistes, mais c'est souvent le cas dans la vie de tous les jours pour tout le monde.
Pour ce personnage, c'était presque une injonction paternelle, une liasse de billets, un mot, va là-bas, va dans cette ville, découvrir.
Alors le personnage, donc il peut être un narrateur ou une narratrice, à la mort du père, reçoit en tout et pour tout une liasse de billets verts et une carte de visite avec une adresse de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on peut dire que le personnage part de son pays initial pour aller de l'autre côté de l'Atlantique et que cette carte de visite n'est pas c'est un objectif en soi, mais ce n'est pas un objectif très concret puisque c'est le saut vers l'inconnu. Cette adresse est inconnue, cette carte doit le mener chez quelqu'un dont il ne connaît rien, et en fait, finalement, on peut dire la carte devient le prétexte de sa quête, qui est une quête intérieure d'abord de sa propre existence, de sa propre situation dans le monde, c'est-à-dire qu'il part pour fuir quelque chose que l'on découvre dans le roman et que cette fuite n'est pas qu'une fuite en avant, c'est une fuite aussi qui est motivée par une volonté personnelle et secrète qu'il porte depuis longtemps de découvrir le secret de la littérature.
Oui, je te cite. Si j'ai décidé de rejoindre cette porte d'or, de venir dans cette ville dont les rêves sont faits, de prendre du temps à Gotham, C'est parce qu'il me semble que c'est ici que tout a commencé pour beaucoup de ceux qui ont compté et comptent encore aujourd'hui comme écrivains, pour beaucoup de ceux qui ont écrit et écrivent dans ce pays.
Là, tout est dit.
Il y a une recherche derrière qui est de l'ordre de
oui, c'est
la création littéraire.
Disons que le personnage a la volonté d'écrire, mais qu'il voit bien que le geste d'écriture en pleine déconfiture de la crise économique ou de l'état actuel du monde, dont le consumérisme ne permet pas de comprendre ce que veut dire encore écrire. Et sa volonté de se rendre de l'autre côté de l'Atlantique, à Gotham, et précisément de se rendre dans la ville, mais aussi dans le pays qui produit la littérature qui domine le monde. Donc cette velléité de découvrir le secret de la littérature est motivée évidemment par ses lectures, mais aussi par l'amour ou la passion qu'il voue à une écriture ou une littérature qui, à ses yeux, a disparu de son propre pays. C'est-à-dire une littérature je ne vais pas dire efficace, mais en tout cas, quelque part efficace, non pas dans le sens de la rentabilité ou de l'économie, mais efficace dans la puissance de changer la vie ou de donner un sens à la vie.
Une littérature qui est une forme d'utilité.
Le terme utilité est problématique parce que pour ce personnage, il n'est pas question de trouver la littérature pour faire œuvre autre qu'artistique. Donc l'utilité deviendrait très vite commerciale, là où, je sais pas, elle aurait une dimension justement concrète, mais qui rentre dans les cases. Or, son désir de comprendre la littérature d'un pays qui produit une littérature fabuleuse, son désir de découvrir le secret de l'écriture, c'est évidemment dans son ambition de créer un geste artistique qui lui fasse passer d'une vie à une autre, qui lui fasse changer d'existence, et non pas tant pour être reconnu, connu, célèbre, que pour agir directement dans un domaine où il estime que la littérature a encore quelque chose à dire, et surtout que la littérature a encore les capacités de changer le monde tel qu'il va. Enfin, le changer étant peut-être pas le terme non plus là à utiliser, mais en tout cas, a la possibilité de saisir le monde et de lui faire changer de direction.
Oui, et puis, il y a ce côté-là. Il y a aussi un autre côté, c'était régénérer la littérature aussi de son pays d'origine, la France. Je te cite, c'est une part de la littérature de ce pays, les États-Unis. C'est produit dans la capitale de mon propre pays. Il doit donc être possible à la littérature de mon pays de se régénérer ici aujourd'hui. Effectivement, la Beat Generation, à un moment donné, a habité Paris et a fait des grandes choses.
Oui, bon, on se doute bien qu'un tel personnage qui part de l'autre côté de l'Atlantique découvrir le secret de l'écriture et de la littérature, c'est bien parce que dans son propre pays, qui a inventé la littérature, ne l'oublions pas, il se passe des choses qui le mettent en... Je sais pas quel serait le terme à utiliser, mais en tout cas, qu'il le mette dans une certaine impuissance d'écriture. Ou du moins, on va dire que c'est un personnage qui a saisi qu'en restant dans une écriture qu'il connaît, une écriture d'un pays qui s'est glorifié d'avoir inventé la littérature, il y a une impasse parce que cette littérature est mourante ou mortifère ou poussiéreuse ou je ne sais pas, il y aurait beaucoup de qualificatifs à dire. Et que si il y a régénérescence possible, il faut sortir d'un socle ou d'un moule, d'une situation de départ, justement, où les choses semblent impossibles, pour aller, peut-être pour y revenir, mais disons que pour aller vers un ailleurs qui permet de régénérer, de revivifier et de peut-être redonner un sens à l'écriture. C'est pas que le pays d'où vient le narrateur produit une littérature qui n'aurait pas de sens, mais en tout cas, ce n'est pas un sens qui, pour le narrateur, va vers la vie. Ce que dans le roman, j'intitule La vraie vie. Il se trouve qu'il y a un livre qui vient de paraître d'Alain Badiou, d'ailleurs, intitulé La vraie vie. C'est comme quoi, c'est pas un hasard. Mais bon, évidemment, la vraie vie, c'est quoi? C'est la bonne vie, c'est la vie des philosophes. Hein. Donc, le narrateur, on va dire, le personnage de ce roman, a l'ambition, évidemment, dans son geste artistique, d'œuvrer pour une meilleure vie. Alors, pour lui, évidemment, pour les autres, mais. Une meilleure vie dans le sens où la littérature aurait toute sa place, donc où elle serait considérée sérieusement.
Oui, le narrateur dit de mettre en place une nouvelle manière de vivre dans laquelle la littérature jouerait un rôle fondamental.
Voilà, il va dire beaucoup de choses semblables au cours de ces 480 pages. Donc, disons que en tant qu'auteur, je serais proche de ce personnage, évidemment. Je ne pourrais pas animer un personnage aussi, enfin, éloigné de moi dans le sens où j'essaye de mettre mes propres motivations. Il est évident qu'écrire aujourd'hui des livres ne veut plus rien dire, publier ne veut plus rien dire. Un des personnages du roman, qui est un grand écrivain américain, le lui dit d'ailleurs. Faire un premier roman qui ne marche pas n'a pas plus de signification que de faire un premier roman qui marche énormément. La question, c'est pourquoi ça marche pas ou pourquoi ça marche. Mais fondamentalement, c'est se reposer quand même cette question de à quoi sert l'écriture pour celui qui la produit, pour les lecteurs aussi, évidemment. Mais quel est le sens de ça et quel est le sens presque sacré de produire de l'écriture? Pour beaucoup d'auteur en général, ce n'est certainement pas comment dire, ce n'est pas une nécessité vitale, voilà. Or, pour ce narrateur, peut-être pour moi-même, mais pour ce narrateur, c'est une nécessité vitale. Il est question de l'écriture comme il est question de vivre ou de mourir. Donc, l'écriture est efficace dans ce sens. Elle permet de dépasser une situation qui fait de la vie un mouroir ou qui fait de la vie quelque chose de pas du tout passionnant et va lui donner le courage donc de dépasser cette situation pour aller vers la vraie vie. Donc quelque chose qu'il ne connaît pas encore et qui lui permettra de trouver peut-être le sens même de toute son existence.
Le personnage, le narrateur de l'ensemble du livre, est non sexué. On sent dans tes réponses qu'il y a pas une gêne, mais qu'il y a un jeu là-dessus. Et nous ne savons pas si ce narrateur est un homme ou une femme. C'est une contrainte textuelle très forte. Pourquoi ce neutre sexuel?
C'est un sujet assez ample, il y aura beaucoup de réponses. Bon, dans mon premier roman, j'avais voulu mettre ça en place déjà parce que un cours de Roland Barthes qui s'appelle Le Neutre m'avait beaucoup beaucoup marqué pour plein de raisons et j'avais trouvé dans cette réflexion sur le neutre une véritable intelligence de la perception de la vie, c'est-à-dire de savoir que la vie échappe aux étiquettes, échappe à la catégorisation, aux cases, même si on peut jouer avec les cases et les catégorisations. Disons qu'il y avait vraiment une faille qui permettait une grande liberté. Roland Barthes m'en a fait tout un cours, je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai découvert au fil du temps que surtout une théoricienne importante, une philosophe et théoricienne, écrivain, qui a une œuvre peut-être sous-estimée en France, qui s'appelle Monique Wittig, avait suscité, enfin avait encouragé les auteurs à utiliser le neutre pour dépasser les catégorisations sexuelles, évidemment, en montrant que en fait Les catégorisations, pour aller vite, ne permettaient pas un acte de vérité. Or, le neutre, justement, pousse assez loin les choses pour que chaque lecteur qui suit le narrateur de mon premier roman ou de ce roman-ci, puisse lui-même, au devant de la situation et au regard du déroulement des événements, par empathie ou par réflexion personnelle, enfin par déduction, puisse se mettre dans la peau du narrateur et peu importe qu'il en déduise à la fin, pour les uns que ce soit un homme et pour les autres que ce soit une femme. Et donc je trouvais que sans être sartrienne et de nos jours, enfin être sartrienne, je ne sais pas ce que ça voudrait dire, mais en tout cas, sans prendre au mot l'injonction de Sartre de devoir écrire une littérature engagée, je trouvais que c'était un engagement, c'était une certaine forme d'engagement intéressante au regard là aussi de débats de la société, des conflits et finalement des dialogues de sourds. Je voulais justement montrer que c'était pas si simple de défendre les femmes ou de défendre les hommes, mais particulièrement pour le féminisme, défendre les femmes, et qu'on arrivait vite dans des clichés, que les choses étaient peut-être plus complexes qu'on ne le pensait, et que la vérité problématique à regarder de plus près, c'était de défendre déjà l'espèce humaine, l'être humain, en tant que bon, essence sacrée, et qu'on n'était pas des animaux, ni les hommes, ni les femmes, et que justement, montrer au lecteur qu'un narrateur, un personnage, pouvait les mettre dans une certaine forme d'empathie par rapport à ses douleurs, ses joies ou les expériences qu'il vit, qu'elle vit et qui nous projette nous-mêmes, permettait de pousser un peu plus loin le débat, voilà, sur cette situation d'hommes et de femmes dans la société actuellement, les statuts, la place, l'égalité, etc., etc.
Et en même temps, c'est une contrainte d'écriture très forte parce que il faut tenir l'écriture pour qu'à aucun moment donné, le narrateur, personnage principal qui dit « je », on sait que pour l'écrire dans la langue française, à un moment donné, il faut presque contraindre la langue à ce qu'elle rentre dans ce neutre-là pour qu'à aucun moment donné, il y ait un « et eux » qui traîne.
Oui, le problème des participes passés avec le verbe être, bon, on connaît ça. Je pense que d'imaginer, mais ça date d'il y a assez longtemps dans mon cas, d'imaginer une telle contrainte n'a pas été simple, mais de la mettre en pratique a été beaucoup plus simple que prévu. Je dirais que dans mon premier roman, j'ai pu l'appliquer assez simplement parce que le récit que je faisais du narrateur mis en situation était au présent. Dans ce roman, dans ce deuxième roman, j'ai une première partie qui est au présent et une deuxième partie qui est au passé et qui est en fait le futur rétrospectif du présent de la première partie. Donc ça veut dire que le présent se passe, l'aventure, enfin le récit continue, mais en fait il continue au passé. Or, il y a évidemment, c'est rétrospectif, donc c'est raconté après coup, bien que ça soit la suite du présent et que ça soit un futur. Et là, j'ai eu de gros problèmes, en fait, de concordance de temps, et non pas d'accord du participe passé. Et la concordance des temps avec le plus que parfait, ou des choses comme ça, était même le passé simple, enfin, avec la parfait, parfois il fallait revenir quand même au présent pour les généralités. Ça a été vraiment beaucoup plus difficile que de savoir s'il y avait un accord ou pas au féminin. Mais après, toutes les contraintes sont complexes quand on les pense, et puis quand on les applique, bon, bah, on trouve des solutions, et puis plus on les applique, et plus on a l'habitude, et plus on a l'habitude, et plus ça devient naturel. Bon, je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait plus compliqué que la disparition de Georges Perec ou d'autres œuvres, voilà, qui appliquent en effet des contraintes très strictes. C'est strict.
Le narrateur arrive dans cette ville à un moment bien particulier de l'histoire du pays, les États-Unis. C'est en 2008. Ce n'est pas n'importe quelle année. pour ce pays et pour sa vie. C'est l'élection d'Obama à la présidence. Et c'est également une crise financière terrible. Ces deux événements sont un arrière-fond, un bruit de fond continu dans le livre.
Eh bien, c'est-à-dire que le narrateur fuyant son pays, enfin le personnage, donc narrateur ou narratrice, fuyant son pays pour des raisons personnelles, voilà, qui sont expliquées dans le roman, va poursuivre le secret de la littérature à un moment où produire de la littérature dans son propre pays est quasiment devenu impossible. Je dis bien produire de la littérature, réaliser un geste artistique littéraire est devenu absolument presque impossible, puisqu'on est vraiment dans le monde du storytelling depuis déjà plusieurs années, et que ce narrateur qui vit ça ne peut s'échapper que vers un pays qui propose une certaine forme de liberté dans l'écriture, et si même c'est un pays capitaliste qui produit aussi du storytelling ô combien, il sait encore, c'est un pays qui produit quand même une très grande littérature. Donc il y avait déjà l'embûche, on va dire, d'un narrateur qui est dans une impuissance d'écriture, ou dans une écriture qui ne le satisfait pas, et donc de devoir partir et essayer d'aller plus loin dans sa quête. Ça pose un certain nombre de, voilà, d'interrogations, de doutes, de peurs, d'angoisses, enfin, tout ce qu'on peut imaginer quand on part comme ça du jour au lendemain, qu'on décide de claquer la porte et de changer de vie. Évidemment, il arrive le jour même où Lehman Brothers tombe, et il va traverser toute cette crise, ou elle va traverser toute cette crise... à la poursuite du secret de la littérature, alors même que la crise était peut-être une situation où il fallait trouver des solutions juste pour manger et se loger. Donc c'est très étonnant. Donc en fait, on en revient à la condition matérielle de l'écrivain. Qu'est-ce qu'écrire aujourd'hui, qu'il y ait crise ou pas? Et quand il y a crise, évidemment, ça cristallise tout un nombre de questions incroyables, qui sont les questions de tous les jours, mais à une autre dimension. Et la chose était peut-être imprévue pour le narrateur ou la narratrice. Et donc, comme tout projet où on ficelle tout et qu'il y a un imprévu, ben le projet est revisité. Donc il faut faire avec l'inattendu. Et c'est peut-être, malgré la dureté de cet inattendu, l'inattendu lui-même qui apporte les solutions. Il faut être assez à l'écoute de l'inattendu.
Les informations du pays et du monde, elles sont scandées dans le cœur du texte, sont scandées comme des litanies. Ça commence par cette expression, la situation est donc celle-ci. Je vais en lire une au hasard. La situation est donc celle-ci. Après une forte baisse le jour précédent, moins 12,7% en données brutes, l'embellie constatée dès l'ouverture des échanges, plus 1,23% en données brutes, ne s'est pas confirmée en fin de matinée, accentuant encore l'irrégularité du marché et son manque de visibilité. Mais, aussi, les radiations d'origine nucléaire s'accumulent irréversiblement tandis que la pollution produite par la consommation industrielle ne cesse d'augmenter. Mais, encore, rien n'a été laissé au hasard pour satisfaire le client. Ainsi, un groupe d'investisseurs a décidé de construire à côté du principal stade un complexe de 3000 m² où seront parquées 30 000 à 100 000 femmes pour assouvir les désirs sexuels des supporters. On a, dans ces nouvelles, dans les situations et donc celles-ci, trois niveaux à chaque fois. C'est des nouvelles qui nous qui infusent comme ça, qui arrivent aux oreilles ou à la vue du narrateur.
Oui, alors c'est des actualités que je n'ai pas inventées, hein. Ce sont des vraies, ce sont des actualités véritables, dans le sens où, du moins, je les ai entendues, relevées. Savoir si elles sont vraies, c'est encore autre chose, mais en tout cas, elles sont véritables dans leur facture. C'est un petit clin d'œil à Dos Passos. Dans son œuvre USA, où il a la trilogie USA, où il l'insère dans ses récits des actualités de l'époque, des propos d'œuvres artistiques qu'il qu'il met en association de ses propres propos. Donc c'était une manière de parasiter aussi mon propre texte par tout en faisant un clin d'œil, un hommage à Ados, à Passos, de le parasiter dans le sens où finalement on ne peut jamais écrire en paix, et que même si on change de vie, on claque la porte, on fuit à 6 000 km, ou 4 000, je ne sais plus, voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, on reste poursuivi toujours par la même angoisse de départ, ou la même peur, ou la même machine infernale qui nous broie. Et plus encore quand on a l'ambition, le désir profond de faire quelque chose qui échappe à ce système et à cette machine infernale. Donc on est encore doublement poursuivi. Et même si dans ce texte, le narrateur ou la narratrice n'est pas un personnage connecté 24 heures sur 24 et allumé tous les écrans, évidemment la destination est mal choisie puisque c'est la destination de la ville qui doit posséder le plus d'écrans au monde dans les rues. Dans les habitations, dans les magasins. Donc, il y a un paradoxe de se dire que ce personnage qui cherche le secret de la littérature, d'une littérature encore vivante et qui arrive à œuvrer, à être efficace, donc pour la vraie vie, est au cœur d'une tourmente financière qui n'a pas de nom, hein, qui est parmi les pires crises financières qui aient existé, qui est d'une dimension assez inimaginable. Et au même moment de cette crise, en plus de cette crise, dans ce lieu, le narrateur, la narratrice se retrouve finalement poursuivi par les écrans télévisés, par les téléphones portables, par les ordinateurs, parce qu'évidemment, les événements de ce moment-là, c'est-à-dire les élections présidentielles aux États-Unis qui se sont déroulées le 4 novembre 2008, ont duré quand même plusieurs semaines auparavant, donc avec les débats, la presse, les médias en général qui revenaient toujours sur les échanges entre les candidats. Enfin, on le voit aujourd'hui entre Trump et Clinton, ce que ça donne. Mais à l'époque, avec Obama, c'était quelque chose d'assez considérable aussi. Et en fait, c'est assez étonnant même pour moi de me dire que le narrateur que je voulais être quelqu'un qui vraiment s'occupe de littérature et qui parte pour découvrir ce fameux secret de la littérature, se trouve embourbé dans tout ce qu'il fuyait, tout ce qu'il fuyait. Il avait peur que finalement il fuyait et ce dont il avait peur le rattrape. Il fuyait ça en espérant justement rentrer dans le cœur de la littérature et il rentre dans le cœur de tout ce qu'il déteste le plus. Mais là aussi, c'est comme l'inattendu, il y a certainement une solution et qui se montre à lui et qui lui permet d'avancer.
Parce que toutes ces nouvelles qui lui arrivent, effectivement, il ne veut pas y échapper. Il ne veut pas y échapper parce que ça provient d'appareils, la télévision, la radio, qui arrivent vraiment à chaque fois dans le texte, dans le corps du texte, de manière très 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 malin à chaque fois. C'est très fluide, c'est très bien joué à chaque fois. On se dit, ah tiens, ça y est, on passe à la nouvelle. Et à chaque fois, il y a une jolie pirouette littéraire pour y arriver. Ce qui m'a surpris, c'est que ce sont des médias de masse et qu'on n'y trouve pas de nouvelles issues de la presse papier.
Là, l'explication est très simple. Le narrateur arrive, le narrateur ou la narratrice, donc toujours, enfin le personnage arrive aux États-Unis avec un niveau d'anglais, enfin d'américain rudimentaire, on va dire. Donc évidemment, le personnage s'intéresse beaucoup à la presse papier et parle suffisamment américain pour comprendre évidemment beaucoup de choses, mais pas pour lire le New York Times de la première page à la dernière tous les jours. Donc la télévision, oui. Et en plus, bon, c'est une volonté de ma part, évidemment. J'ai vécu des choses semblables. Je me suis aussi inspiré de mon expérience. C'est-à-dire que quand on arrive aux États-Unis, on est extrêmement hypnotisé par les écrans. S'il se trouve que les écrans sont dans la rue, ils ne sont pas juste chez des personnes ou dans des magasins ou seulement dans les magasins et qu'on les voit de temps en temps. Non, c'est dans la rue, il y a des écrans géants, on va commencer par l'écran de la dette qui défile sans cesse. C'est très étonnant, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé dans ce que j'ai voulu signifier, on est passé dans le monde de l'image. Et je ne parle pas de qualité d'image là, je parle de l'image en général, qu'elle soit bonne ou mauvaise, spectaculaire ou pauvre. quoi qu'il arrive, que l'on soit aux États-Unis, c'est pareil dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis et précisément à New York, l'image colle à la peau comme la pluie coule sur soi quand il pleut. C'est très désagréable et en même temps, on n'arrive pas à s'en défaire. Alors, parfois, quand il pleut, on se dit oh, ça va mouiller, évidemment, donc on est gêné. Puis ça, il peut y avoir aussi un. Ça peut être agréable, ça peut rafraîchir. Ben, les images, c'est pareil. Et on n'a pas envie de les voir et puis on ne peut pas s'empêcher de la regarder. Et puis ça fait du bien, puis ça fait du mal. Enfin, c'est très étrange.
Et il y a, en plus de toutes ces images, le chiffre de la dette, effectivement, qui revient également comme une litanie. C'est une manière presque de compter le temps également, un mode de comptage du temps dans le livre. Déjà les jours, bien entendu, toute la première partie s'est découpée en 15 jours. Et puis il y a ce chiffre de la dette qui pourrait être presque une modalité de compter le temps, puisqu'elle augmente sans cesse et les chiffres augmentent sans cesse. Il y a ce passage qui est effarant. La dette publique nationale, qui en ce jour de septembre de l'an de grâce du réel dévasté, affiche en continu le chiffre du jour, 9 945 milliards 578 millions 102 771,23. Ça, c'est d'abord en chiffres, c'est-à-dire, et là c'est écrit après, en toutes lettres. À chaque seconde, la somme globale augmente de plus de 40 000 billets verts, soit plus de 4 milliards chaque jour, soit presque 1 500 milliards chaque année. Dans quelques heures, un jour tout au plus, cette dette dépassera le cap des 10 000 milliards de déficit cumulé. Et cette dette est une litanie puissante dans le livre.
Oui, c'est une litanie puissante, surtout quand on est sur place et qu'on la voit défiler. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'en étant très très loin et en étant revenu dans le pays d'origine, le personnage peut aujourd'hui apprécier cette dette encore, puisque et les lecteurs avec ce personnage, puisque la dette de 10 000 milliards de dollars, oui, plus que dépassée, puisqu'elle a doublé, nous sommes à 20 000 milliards. Et Obama part, et nous sommes face à Trump et Hillary Clinton, et avec cette dette complètement dingue, qui ne pourra jamais s'arrêter, enfin qui n'a aucun sens, hein, qui ne repose sur rien, c'est-à-dire que elle a un effet, je pense, assez angoissant sur l'ensemble des gens qui peuvent la regarder, puisqu'elle est affichée dans la rue. Mais elle a un effet très puissant d'angoisse sur le reste du monde, parce que bon, c'est en partie que cette dette repose, enfin, est possédée par les Chinois et que il n'y a pas que l'Amérique qui en tombant emporterait le monde. Il y a d'autres pays, mais qui sont liés à l'Amérique, enfin, c'est aux États-Unis. Donc c'est une dette qui est aussi notre dette à nous. C'est très étonnant. C'est-à-dire que quand on voit la dette américaine, on en possède une partie. C'est assez dingue à dire, mais oui, évidemment.
Et afin de continuer et peut-être de terminer dans la description textuelle du livre, il y a autre chose qui frappe, c'est l'usage particulier des noms propres, qui nécessite à la fin un index des personnages et un index des personnalités citées. C'est-à-dire que les noms propres ne sont pas maquillés, mais ils sont pas non plus détournés. Je vais citer un exemple, ça sera plus clair, par exemple. Si j'ai décidé, non, c'est pas cet exemple. Il est où? Ah, il est là. Depuis que règne dans le pays l'idéologie de Dubia, ce plouc de Bucciolini et furieux Bogus W. Potus, fils d'un abruti qui se croit l'élu de Dieu. Ces trois noms, trois qualificatifs pour qualifier George Bush fils. Ces éléments-là, on les retrouve tout le temps, c'est-à-dire que la ville de New York n'est pas citée telle quelle. Tous les noms propres sont maquillés par d'autres termes pour les qualifier.
Il me paraissait évident au départ de penser ce roman comme le roman des romans, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire qui soit absolument romanesque au possible, mais qui dépasse le roman, c'est-à-dire une sorte de mise en abîme de la fiction par elle-même, donc de fictionnalisation complète du réel, qui fasse de ce livre plus qu'un roman. Enfin, c'était de montrer que finalement, la traversée du narrateur ou de la narratrice avait évidemment une dimension de réalité ou de réel importante, puisque tout repose sur des faits exacts, rien n'est inventé. Donc ce n'est pas dans ce sens un roman qui ferait appel à un imaginaire débordant où on serait dans des mondes incertains et proches de la science-fiction, quoique bon, la science-fiction a beaucoup de réalisme aussi. Mais là, dans cette réalité crue, il fallait dépasser cette réalité pour pas être un roman réaliste. Et je trouvais que la mise en abîme de la fiction par elle-même, dans la recherche du secret de la littérature, était ce qu'il y avait de mieux. Donc en fait, d'un côté, je voulais vraiment, et non pas que je sois, comme je le disais tout à l'heure, sartrienne et pour le roman engagé, mais je voulais me saisir du réel. Il me semblait que c'était important dans le sens où j'estime que la littérature française ne se saisit pas assez du réel. Et de l'autre côté, je me rends compte, et je m'étais rendu compte, que lorsque la littérature française se saisissait du réel, c'était des choses qui n'allaient pas vers la littérature. C'est-à-dire, bon, un manque de référents, un manque de langue, un manque de style, un manque de beaucoup de choses. Bon, ne parlons pas de la narration et d'autres paramètres. Donc, il était important pour moi de ne pas faire de l'autofiction. Il n'était pas question de raconter ma vie à New York, devant le tableau de la dette, ma vie n'ayant finalement rien à voir et tout à voir avec, avec celle du personnage. Mais justement, je voulais transcender ça, peu importe que ce soit vrai ou faux. Du moment que les événements sont réels et qu'on les saisit, c'était comment les révéler, et les révéler à travers un acte artistique, donc de la littérature, et non pas un témoignage ou je ne sais quoi encore, on va dire une enquête sur le terrain. C'est vraiment un roman pur et dur.
Et donc, ça nécessitait de masquer les noms de lieux, les noms de personnes, pour que ne reste finalement comme nom exact, qu'existent seulement les noms de personnages de fiction, puisque eux ont les véritables noms qu'ils ont dans les romans cités.
Ben voilà, le faux est un moment du vrai, ou le vrai est un moment du faux, peu importe. Oui, pour le coup, les personnages sont vraiment les personnages des romans. Ça, je n'ai pas inventé des noms, c'est-à-dire que tous les noms sont véridiques. L'index est là pour le montrer. Les nicknames, c'est-à-dire les surnoms des personnalités, sont aussi des surnoms qui existent. Donc, je dis, à ce niveau-là, il n'y a pas de défaut d'information, si on peut le dire comme ça. Donc, tout est vrai, mais le saisissement du réel se fait sous l'œil d'un auteur qui, à travers un personnage, veut faire acte artistique, acte littéraire. Donc c'est un geste particulier, et donc c'est une volonté et peut-être là aussi une contrainte, mais qui participe pleinement de ce qu'on peut nommer être la littérature. Et ce sera un long débat, mais disons que il me semble que pour écrire un roman, il y a certains paramètres qui font qu'on va vers la littérature ou qu'on n'y va pas. Voilà.
Puis il y a un enjeu sous-jacent à cela aussi, je te cite, « La réalité pour ces personnages était ce qu'était la fiction pour les êtres réels. Je me demande alors si l'existence des personnages de romans n'est pas finalement plus réelle que la nôtre et s'ils ne représentent pas aujourd'hui les véritables anges gardiens de notre destinée. »
Oui. Le personnage vit ça et je peux dire je vis la même chose, donc là je n'aurais rien à dire de plus que ce que tu viens de lire. Après c'est une banalité que de dire dans les événements d'actualité, les événements du quotidien, oh là là, la réalité dépasse la fiction, on entend dire ça tous les jours. Pour ma part, je ne dirais pas que la réalité dépasse la fiction, je dirais qu'elle la tue tout simplement, qu'elle la détruit. Et que c'est aux écrivains de la faire revivre. De lui redonner justement un souffle qui soit un souffle vivifiant et qui possède la vie et non pas la mort ou le mortifère.
Et à cela s'ajoute un art de la citation aussi, en plus de l'utilisation des noms des personnages de romans. C'est-à-dire que dans ce livre, tu utilises pleinement la littérature, tu t'en fais l'acteur du livre, c'est la littérature américaine, dont le narrateur est pris et vient vérifier sur place, prendre presque une leçon de littérature. C'est, en tant qu'auteur, s'y rendre actif en la citant. Est-ce que de citer autant, c'est une manière de vivre pleinement la littérature?
Vaste question. Je dirais qu'il ne peut pas y avoir de littérature sans la littérature. Si j'avais l'ambition de faire ce roman tel qu'il est et que j'ai peut-être réussi ou pas, ça c'est au lecteur de voir. J'avais évidemment différents paramètres dont nous avons parlé, différentes contraintes. Ça fait partie de ces paramètres et de ces contraintes. On ne peut pas partir à la recherche du secret de la littérature, parler de littérature, essayer de faire la différence entre ce qui serait la littérature du reste, du bavardage par exemple, ou des écrans télé, des séries télé, et ne pas montrer ce qu'est la littérature. C'est-à-dire parler de la littérature sans jamais la montrer, il y a un moment, je pense que n'importe qui aurait fait finalement comme moi, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est-à-dire il y a un moment, la citation, non pas qu'elle valide une connaissance, une forme de culture particulière, c'est avant tout le matériau même de la littérature. On n'écrit qu'à partir d'autres œuvres. Et la citation, c'est aussi l'esprit du livre. C'est pas par hasard que j'ai mis ces citations. Elles font sens, évidemment, avec le récit que j'ai fait du personnage. D'ailleurs, il y a autant, enfin peut-être pas autant de littérature, enfin de citations de littérature française qu'américaine, mais il y a aussi beaucoup de citations françaises, de littérature, d'œuvres françaises. Ce qui était important pour moi, c'est de raccorder, peu importe les langues en fait, hein, et les continents, c'était de montrer que la littérature était opérée où que l'on soit, et que c'était juste finalement un problème de réception, de senti, d'écoute, et qu'on peut lire des œuvres américaines ou des œuvres françaises, comme on lirait des œuvres indiennes, latinos, enfin, toutes les œuvres qui sont dignes de la littérature, elles font toujours sens avec le récit de personnages, ou la voix d'un auteur, parce que justement, elles sont quelque part une sorte de réminiscence, de seconde voix, de bonnes étoiles. Disons que la citation est ce qui prouve que la littérature existe, encore.
Oui, parce qu'il y a cette anecdote qui court aussi tout le long du livre, c'est une récurrence, c'est l'étoile du sac du narrateur. Ce qui est surprenant, c'est que toute personne qui croise le narrateur donne son propre interprétation de l'étoile. C'est-à-dire qu'il y a autant d'interprétations de l'étoile que de regardeurs. Je vais juste citer un passage où nous avons presque la solution finale. Quelqu'un qui apporte plein d'éléments et il y a la réponse du narrateur qui est surprenante. Soudain, un jeune homme vêtu de noir s'approche de ma table, attiré par l'étoile qui orne mon sac. Il énumère chacun des six noms inscrits, m'assurant qu'il connaît le comté de Bell au centre de l'étoile, de l'état de l'étoile solitaire, autant que celui d'Ida dans l'état d'œil de faucon. Il connaît également la ville d'Anna dans l'état des plaines, comme celle de Paradise au nord de la vallée centrale de l'état doré, ou encore celle de Sylvia dans l'état du tournesol, dont la devise devrait m'interpeller vu l'étrange étoile que j'arbore sur mon sac, jusqu'aux étoiles par des sentiers ardus. En revanche, il n'a gardé aucun souvenir notable de la soirée qu'il a pu passer chez Gatsby, dans la capitale du carrefour du pays. Pourquoi connaît-il ces lieux aussi éloignés qu'inattendus? Il est saxophoniste et joue dans des bars, des clubs et des saloons dans tout le pays. C'est ainsi que je gagne ma vie comme musicien, souligne-t-il avec circonspection, tout en s'interrogeant à son tour. Vous avez été vous-même dans tous ces endroits? Je lui avoue que je n'y ai jamais mis les pieds, car pour moi, ces noms ne représentent pas des lieux, mais des personnages.
Eh ben oui, que dois-je dire d'autre?
Ces noms ne représentent pas des lieux, mais des personnages. C'est vivre pleinement la fiction.
Bah, disons que le personnage qui part avec ce sac arboré d'une étoile à 6 branches, dont chacune des branches indique des noms de personnages, trois noms de personnages masculins, trois noms de personnages féminins. C'était une volonté de ma part, bien avant d'ailleurs d'écrire ce roman, c'était une volonté de ma part de me dire que partir à la recherche du secret de la littérature, c'était être guidé déjà par la littérature. Et donc de faire d'une bonne étoile sur un sac une espèce d'étoile d'orientation, ça ne pouvait être incarné que par des personnages de la littérature. Donc en fait, naturellement, tous les noms ramènent toujours à ces 6 personnages, même s'ils ont une dimension universelle d'autre chose. C'est-à-dire que c'est là que l'on voit que tous les protagonistes qui croisent le personnage principal du livre ont leur opinion sur cette étoile et sur du moins les 6 noms de cette étoile, qu'arbore cette étoile. Et ces 6 noms se représentent beaucoup de choses, mais parce que finalement, comme dirait, me semble-t-il, Schopenhauer, le monde est le monde, donc, ou du moins Wittgenstein, le monde est tout ce qui est. On pourrait peut-être faire des listes à l'infini à partir d'un seul nom et il y aurait de multiples choses parce que c'est différentes dimensions d'une même chose, mais c'est toujours la même chose. Donc les personnages peuvent représenter des lieux. Pour le narrateur, ce sont des personnages de roman. Pour ce saxophoniste, oui, ce sont des lieux où il joue, mais finalement ces lieux incarnent aussi un geste artistique qui est celui de la musique. Bon. Ce qui était assez intéressant, c'est de voir qu'à partir de 6 noms de personnages, le dialogue peut se faire avec des gens d'un autre univers. Et que, à mes yeux, c'était une manière de faire un clin d'œil transdisciplinaire et de montrer que la littérature était en dialogue avec les autres disciplines ou les autres connaissances. Il n'y a pas la littérature pour la littérature et on reste en littérature. Il y a une littérature qui est ouverte sur le monde, sur l'expérience du monde, sur l'expérience de l'existence. Et que, justement, des gens qui n'auraient pas les mêmes référents auraient quand même quelque chose à se dire entre eux parce que il s'agit de parler de l'expérience de la vie. Donc, ça en passe par des expériences diverses qui peuvent avoir le même nom.
Oui, parce que. On arrive à cette idée de la fonction du roman. La fonction du roman serait de conduire à la vraie vie et non de raconter des histoires.
Ben c'est... Je pense que c'est une vraie réflexion aujourd'hui en écriture. Qu'est-ce qu'écrire ? Ce n'est pas du tout de raconter des histoires. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut raconter des histoires, mais c'est exactement tout l'inverse. Je ne vais pas dire que tout ce qu'on nous dit, c'est toujours tout l'inverse, mais là, précisément, ça serait une longue discussion qu'on ne peut pas avoir à ce micro, mais bon, il y a d'autres personnes que moi qui en ont parlé et qui ont même poussé très loin leurs propres réflexions, mais en tout cas, la littérature, c'est tout sauf raconter des histoires. Je dirais la même chose pour le cinéma, la même chose pour la musique, pour la photo, pour la peinture. Ensuite, que l'on fasse des produits qui racontent des histoires pour des raisons que l'on connaît, de rentabilité, d'addiction. J'ai presque envie de dire c'est une autre histoire, mais Mais en littérature, oui, les grandes œuvres ne racontent pas d'histoire. On pourrait en citer bon, par dizaines et dizaines et dizaines. Je sais pas, les Cantos de Pond, Finnegan Wakes de Joyce, enfin, voilà, c'est sans fin. La recherche du temps perdu de Proust, enfin, toutes les œuvres de Claude Simon. Et précisément, ce sont des œuvres de littérature. Donc, si on s'entend bien sur l'objet, on voit bien que raconter des histoires n'est pas le fort de la littérature.
Merci beaucoup, Caroline.
Merci, Dominique.